Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris, où il est maintenant 22h.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile que je vous présente en compagnie de Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
À la une de l'actualité de ce vendredi 9 août au Yémen, des accrochages entre deux groupes de combattants pro-gouvernementaux.
Les navires humanitaires qui ont recueilli des migrants sont toujours bloqués en Méditerranée.
Et puis en Italie, nous reviendrons sur la fin de la coalition gouvernementale.
Le journal en français facile.
Au Yémen, tout d'abord, des affrontements ont eu lieu depuis quelques jours à Aden, au sein de groupes qui sont censés être alliés contre les rebelles houthis dans le nord du pays.
Dans la journée de jeudi, ces affrontements ont fait 12 morts, 9 combattants et 3 civils.
Des affrontements qui font craindre l'ouverture d'un nouveau front dans une guerre déjà très meurtrière, nous dit Muriel Paradon.
C'est une guerre dans la guerre. Alors que le gouvernement yéménite combat depuis 2015 des rebelles, les Houthis, avec l'aide d'une coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, des affrontements ont lieu au sein du camp pro-gouvernemental. Ils opposent d'un côté des soldats fidèles au président, Abdrabou Mansour Hadi, actuellement en exil en Arabie Saoudite, et de l'autre, des miliciens séparatistes, soutenus par les Émirats Arabes Unis. Ces miliciens veulent renverser le gouvernement actuel pour créer un Yémen du Sud, comme c'était le cas avant 1990, lorsque le pays était séparé en deux. Ces combats se déroulent à Aden, la grande ville du Sud, qui sert de capitale temporaire du pays depuis que Sanaa est aux mains des rebelles houthis. Combats de rue, parfois à l'arme lourde, qui mettent en danger la population, obligée de rester cloîtrée chez elle. En janvier 2018, des affrontements similaires avaient eu lieu. Ils avaient fait des dizaines de morts.
Muriel Paradon. Au Tchad, une nouvelle flambée de violence a fait au moins 37 morts en 3 jours de combat entre communautés de cultivateurs et d'éleveurs qui se disputent des terres dans l'est du Tchad.
Et le président Idriss Déby a promis de mener une guerre totale contre les responsables de ces troubles.
La prochaine édition d'Afrique Soir sur RFI, ce sera à 12h30, en votre compagnie Sébastien Duhamel. Aucune solution en vue pour les navires humanitaires bloqués en Méditerranée.
L'Open Arms est toujours en attente d'un port où débarquer avec les 121 migrants secourus au large de la Libye. Ils sont en mer depuis une semaine.
Et ce matin, un autre navire, l'Océan Viking, a effectué le sauvetage d'un canot pneumatique dans les eaux internationales au large de la Libye. Avant-hier, Malte avait refusé au navire d'approcher de ses côtes pour refaire un plein de carburant.
Le président du Parlement européen, David Sassoli, a écrit à Jean-Claude Juncker pour presser la Commission européenne de trouver une solution.
Et l'eurodéputé allemand Erich Marquardt, nouvel élu du groupe Vert ALE, dénonce lui aussi l'attitude de l'Union européenne. Écoutons-le.
28 gouvernements de grands pays ne trouvent pas de solution pour répartir moins de 5000 personnes qui arrivent chaque année. C'est le rythme en ce moment. Et on n'arrive pas non plus à trouver de solution pour changer le règlement de Dublin ou trouver un autre règlement qui permettrait à l'Italie, Malte et la Grèce de ne pas être seuls face aux défis de l'immigration. Je trouve inacceptable qu'on laisse les gens se noyer en Méditerranée alors qu'il est possible de les accueillir et qu'il est possible de trouver des solutions politiques à un problème qui n'est pas si compliqué. C'est un triste constat que presque tous les États refusent d'aider les ONG alors qu'on est face à un désastre humanitaire en Méditerranée centrale. Le fait que 3000 personnes soient arrivées en Italie cette année ou 1000 à Malte, ce n'est pas un problème mondial majeur. Le grand problème, c'est que près d'un millier se soient noyés parce qu'elles fuient les zones de guerre de la Libye. C'est inacceptable et très embarrassant pour l'UE que les 28 soient incapables de trouver une solution humanitaire à cette situation maintenant.
Erich Marquardt, des propos recueillis par Juliette Gerbrand. L'Italie se dirige vers des élections anticipées. C'est la fin du gouvernement de coalition entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles.
Matteo Salvini, le patron de l'extrême droite et ministre de l'Intérieur, l'a annoncé hier soir.
Monsieur Salvini est en position de force face à son partenaire affaibli. Il veut profiter de la popularité de la Ligue, crédité de 37 à 39% des intentions de vote. Il avait fallu 88 jours après les législatives de mars 2018 pour former un gouvernement.
Un gouvernement de coalition fragile entre les populistes du mouvement 5 étoiles et l'extrême droite.
Alors retour sur les 14 mois d'une gestion difficile avec Juliette Gerbrand.
Les tensions et les invectives n'ont pas manqué, aussitôt suivies toutefois de déclarations de loyauté et d'unité. Et depuis juin 2018, les mini-crises qui se sont succédées au sommet de l'exécutif n'ont pas paralysé l'action du gouvernement. Ligue et 5 étoiles avaient conclu un pacte sur leurs priorités respectives et les lois sont passées. Promues par les 5 étoiles, le revenu de citoyenneté, le décret anticorruption, la suppression des rentes des anciens parlementaires. Défendu par la Ligue, la loi sur les retraites, l'assouplissement de l'usage des armes à feu en légitime défense et bien sûr, la loi sécurité et immigration, un texte très controversé sur lequel le président de la République lui-même a émis des réserves. Mais les divergences de fond dominent sur la fiscalité, la justice, la diplomatie, entre autres. Et c'est sans surprise sur l'emblématique question du TGV Lyon-Turin que le pacte a été rompu. La lutte contre ce projet a toujours été le grand cheval de bataille du mouvement 5 étoiles. La chute du gouvernement italien était attendue, surtout depuis les élections européennes qui ont acté le renversement complet du rapport de force électorale entre les partenaires. Mais dès l'automne dernier, la popularité du mouvement 5 étoiles était éclipsée par celle de la Ligue, portée par un Matteo Salvini omniprésent sur les réseaux sociaux.
Ce vendredi, la plus grande cérémonie de rapatriement d'ossements dans l'histoire de la Suède a eu lieu à Lycksele. C'est une petite ville proche de la Laponie, à 800 km au nord de Stockholm.
25 crânes exhumés du cimetière local et appartenant à des Samis vont être enterrés à nouveau dans ce sol qu'ils n'auraient jamais dû quitter.
L'enjeu de cette journée, c'est la réconciliation entre l'État suédois et ce peuple autochtone, les Samis, le dernier d'Europe.
Des Samis qui aujourd'hui luttent encore pour préserver leur langue et leur culture et qui, dans le passé, ont été victimes d'une politique d'assimilation, parfois très violente, nous dit Frédéric Faux, c'est notre correspondant à Stockholm.
L'histoire des crânes de Lycksele commence en 1950. Des fouilles sont faites dans ce village de Laponie, qui a été une base de la colonisation du Grand Nord par les Suédois. Le matériel archéologique, comme il était d'usage à l'époque, est envoyé pour examen au musée de l'histoire suédoise, à Stockholm. Et c'est là que le scénario dérape, comme l'explique Katarina Hautman, sa directrice.
Le musée d'histoire suédoise a retourné les objets trouvés au musée de Västerbotten, dans le comté de Lycksele, mais pas les ossements. On les a redécouverts en 2013.
En Suède, cette affaire remet en lumière les préjudices subis par les Samis, dont l'histoire est marquée par les conversions forcées, les terres confisquées, les tombes pillées. Mais l'un des aspects les plus sombres de cette relégation ont été les études anthropologiques faites sur les Samis, considérés longtemps comme une race à part.
Notre ostéologiste semblait intéressé par des questions raciales liées à ces crânes. Il a expressément demandé l'envoi de ces ossements samis.
Selon un récent rapport, 11 institutions suédoises conserveraient toujours des ossements samis, pour lesquels le Parlement sami a demandé plusieurs fois un retour vers la Laponie. Frédéric Faux, Stockholm, RFI.
Un mot de sport, du football. La saison de Ligue 1 reprend ce soir en France. Le PSG, le Paris Saint-Germain, en est le grand favori. Il jouera dimanche contre Nîmes, avec ou sans Neymar, on ne sait pas encore.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la plainte pour viol qui le visait a été classée sans suite au Brésil.
Ce soir s'affrontent deux autres prétendants au podium, Lyon et Monaco. Le match est en cours. Quand je l'ai quitté, Lyon menait 2-0. C'est la fin de ce journal en français facile, réalisé par Alice Ménard. Merci Alice, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet, à la fois en audio et en texte. L'adresse, Sébastien ?
Savoir avec un S. RFI.fr
Savoir avec un S, RFI.fr. Bonsoir à tous et à demain.